et bonjour à tous. France Culture, il est midi, tout de suite les titres du journal de 12h30 avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. Les policiers manifestent aujourd'hui pour dénoncer ce que leur syndicat appelle la haine anti-flic. À Paris, ils se rassemblent en ce moment même sur la très sollicitée place de la République, où se réunit chaque soir depuis fin mars, on le sait, le mouvement Nuit Debout. On y retrouvera Antoine Marette. Pour la quatrième fois depuis le début du mois de mars, les cheminots sont appelés à débrayer. Aujourd'hui et demain, grève à l'appel de la CGT de Sud pour défendre les conditions de travail. Un moment où les règles du secteur sont remises à plat en raison de l'ouverture à la concurrence. Les députés poursuivent l'examen du projet de loi dit de modernisation de la justice du 21e siècle. Le ministre Jean-Jacques Urvoas explique que l'objectif de la réforme est de désengorger les tribunaux, notamment par la possibilité de divorcer sans jugement en faisant enregistrer une convention chez un notaire, le divorce étant effectif après un délai de 15 jours de rétractation. On dira un mot de l'actualité à l'étranger, les primaires démocrates, Hillary Clinton remporte de justesse la primaire du Kentucky face à son adversaire Bernie Sanders, qui enlève lui l'Oregon et qui continue de lui résister, promet même de rester dans la course à l'investiture jusqu'à la fin. Et puis au Venezuela, c'est une journée à très haut risque, avec des manifestations convoquées par l'opposition pour exiger un référendum pour révoquer le président Maduro. Voilà pour l'essentiel. L'invité du journal, ce sera Jean Lassalle, député Modem des Pyrénées-Atlantiques. Caroline Brouet à Cannes, c'est à vous.
Oui, la grande table en direct du Festival de Cannes jusqu'à demain midi pour vous donner une idée de quelques-uns des films qui y sont présentés dans les différentes sélections. La compétition, Un certain regard, La quinzaine des réalisateurs, Cannes classique ou encore La semaine de la critique. Olivier Assayas et Jim Jarmusch seront nos invités de dernière partie. Mais tout de suite, Charbanou, Sadat, Muriel et Delphine Coulin.
Allô, allô? Ici Cannes.
Paris aujourd'hui est à Cannes.
J'attends d'une Palme d'Or qu'elle soit en même temps un accomplissement et en même temps qu'elle dessine un avenir pour le cinéma.
For me, it's a film that stays with you long after you've left the cinema.
C'est le film qui vous emporte, c'est le saveur du film.
L'émotion la plus forte que je vais ressentir.
L'émotion qui me surprend.
The film works and that's what we're all looking for.
Pour moi, la forme est très très important.
Moi, qu'est-ce que je cherche?
You know, everything comes together, the acting, the screenplay.
Le 21e film?
You know, it's shot and it's just, you know, whatever accomplishes the most, I guess.
C'est un film qui va changer ma vie.
Nous déclarons ouvert
le 69e.
Le 69e
Festival de Cannes.
Festival de Cannes.
Elle est la première cinéaste afghane de l'histoire du Festival de Cannes. Nous nous devions donc de la rencontrer. Avant d'étudier le cinéma à Kaboul, mue par son envie irrépressible de devenir réalisatrice, Charbanou Sadat a vécu de l'âge de 11 ans à l'âge de 18 ans dans les montagnes afghanes, loin de la guerre et du fracas du monde, avec les communautés de bergers. À 26 ans, elle a voulu leur rendre hommage pour offrir au monde une autre image de son pays à travers une chronique villageoise contemplative centrée sur des enfants bergers d'une dizaine d'années. Je l'ai rencontrée hier sur l'une des plages du festival où se passent les entretiens avec la presse, d'où ce bruit de la mer. La jeune femme de 26 ans, discrète mais volontaire, a choisi de parler en anglais.
Pour moi, donc Welcome Sheep, c'est un film très personnel parce que j'essayais de parler de mon enfance dans ce village où j'ai vécu donc pendant 7 ans. Et pour moi, c'était très important de parler dans ce film, de faire ce film, parce que je parlais de la vie quotidienne des gens. Et c'était un sujet tellement important pour moi parce que si vous... Vous voyez, il n'y a pas en fait un de films de fiction qui a été fait sur un tel sujet, sur la vie quotidienne dans ces montagnes. Et alors que je vivais dans ce village, hein, j'ai vécu là de 11 à 18 ans, évidemment j'étais alors très impressionnée par les gens qui vivaient là, leur manière de vivre, et ça m'a vraiment appris beaucoup de choses sur comment les choses pouvaient fonctionné dans les villages en Afghanistan. Et évidemment, quand je suis arrivée à Kaboul en 2008, j'étais pas, comment dire, perdue, parce que c'était un petit peu le même genre de société traditionnelle et religieuse. Et ce village, donc, n'avait été d'une certaine manière qu'un échantillon de la manière dont fonctionnaient les choses dans l'Afghanistan en général.
Vous filmez en particulier deux enfants, Kodrat et Sedika, donc un petit garçon et une petite fille, qui se rencontrent rarement. On voit les garçons et les filles la plupart du temps séparés. Mais de temps en temps, ils se retrouvent, et en particulier ces deux enfants. On les voit se fréquenter assez peu, entre hommes et femmes, entre filles et garçons. Mais malgré tout, ces enfants sont comme tous les enfants du monde et ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Ça, c'est quelque chose que vous avez vécu vous-même également?
No, I wish it could happen to me, but
j'aurais aimé que des choses se passent comme ça pour moi, mais j'étais en fait une étrangère et je n'avais pas d'amis dans le village et j'en avais de ses amis. Mais en 2008, quand j'ai quitté ce village et que je suis allée à Kaboul, j'ai rencontré un garçon qui avait le double de mon âge et maintenant c'est mon meilleur ami, mais à ce moment-là, il m'a donné son journal qui faisait 800 pages. Il a ensuite expliqué dans ce journal qu'il venait du village où j'avais vécu, mais pas à la même période, bien sûr. Il avait vécu dans ce village dans les années 70, alors que moi, j'y avais vécu entre 2001 et 2008.
When I read his diary, for me, it was like
son journal, c'était comme si le temps n'avait pas passé. C'était la même chose que ce que j'avais vécu. J'étais tellement impressionnée qu'on ait vécu les mêmes choses. Moi, j'avais vécu 7 ans là-bas, lui 8 ans, et je venais de Téhéran jusque vers ce petit village très éloigné, et lui, il était venu de ce village très éloigné vers la grande ville Kaboul, et j'étais très impressionnée que nos histoires se ressemblent à ce point-là. Et puis effectivement, tous les deux, dans un temps fictionnel d'une certaine manière, on s'est rencontrés et on est devenus amis.
Vous parlez, cher Banu Sadat, des histoires et des histoires que ce jeune homme racontait dans son journal et que vous avez pu voir. Des histoires, les villageois s'en racontent. En permanence, vous filmez ça, ces moments où ils s'inventent des histoires, où ils se racontent des histoires. Alors, c'est des histoires que les enfants se racontent entre eux, c'est des histoires que les adultes racontent aux enfants, et ces histoires, vous en faites quelque chose de l'ordre de l'imaginaire dans votre film, parce que c'est une chronique villageoise. On suit, comme vous l'avez dit, ces enfants, ces adultes dans leur vie quotidienne, dans leur façon de s'occuper des animaux, de les cuisiner également, de manger, de travailler à leur façon de vivre. Ils vivent au quotidien. Et puis, de temps en temps, surgit le fantastique. Quelques images d'un loup fantastique, d'une femme nue avec des cheveux très très longs, presque peinte en vert, et qui surgit de nulle part. Est-ce que cet imaginaire-là, c'est un imaginaire de ces montagnes, c'est un imaginaire de ces villageois, ces histoires-là viennent-elles de là ?
Well, I wanted to make a film about the real life.
Alors, je voulais faire un film sur la vie quotidienne de ces gens et aussi sur toutes leurs histoires. Donc, toutes les choses qu'ils peuvent avoir dans la tête, la manière dont ils se parlent, la manière dont ils communiquent, leur vision, leur sens, leurs sentiments et tout ce qu'ils disent à travers leurs histoires. Et en même temps,
something like a documentary style of
je voulais vraiment aussi faire des commentaires sur la vie de ces gens. Mais quand j'entendais ces histoires, hein, je me disais, mais c'est impossible de les ignorer, ces histoires, parce qu'elles sont vraiment extrêmement importantes dans ce que sont ces gens, ou pour ce que sont ces gens. Ils croient ces histoires, en fait. Hein, et tous les gens dans le centre de l'Afghanistan croient à toutes ces créatures. Hein, elles ne sont pas des créatures qui viennent d'histoire, elles font partie de la réalité. Et donc, vous me demandez quelle est la partie du film qui est la plus documentaire, hein, c'est effectivement cette femme peinte en vert, parce que ça parle vraiment là de la mentalité des gens.
Cher Banu Sadat, je ne vais donc pas vous poser la question de la part de documentaire et de fiction, parce que vous venez d'y répondre. Mais en revanche, je ne suis pas sûre que ce soit le village même ou la communauté villageoise où vous avez vécu, vous. Est-ce que vous avez tourné avec des acteurs ou bien sont-ce des non-professionnels? Et comment vous êtes-vous fait accepter? Est-ce que ça a été facile, vous, femme, de rejoindre ces communautés montagnardes très isolées du reste du monde, complètement en dehors du temps, et d'arriver avec une caméra pour filmer la vie de ces hommes et de ces femmes, mais aussi de ces hommes?
Well, first, I didn't shoot the film in Afghanistan. I couldn't shoot the film.
Alors d'abord, je n'ai pas tourné le film en Afghanistan. Ce n'était pas possible. J'ai tourné au Tadjikistan. Évidemment, mon rêve le plus fou aurait été de filmer en Afghanistan, dans ce village où j'avais grandi. Et je ressentais une telle nécessité de loyauté, hein, par rapport à ce qu'est L'Oréal, puisque je viens du cinéma vérité. Et je voulais vraiment faire un film très personnel sur des lieux réels, mais je ne pouvais pas le faire en raison des problèmes de sécurité. On en a beaucoup parlé, hein. Il y a eu des discussions sur cette question pendant 8 ans, depuis 2008. Hein. Et on a très souvent repoussé le tournage, on se disait, voilà, les choses vont s'améliorer. Et en fait, en Tadjikistan, on a recréé ce village afghan, et donc je me suis retrouvée, hein, à être directeur artistique aussi du film, hein, à dessiner ce village pour que des constructeurs puissent le reproduire au Tadjikistan. Hein. Et donc, tous les gens qui venaient de mon village et d'autres villages, hein, sont venus au Tadjikistan. C'était un grand voyage pour eux. C'était la première fois qu'ils avaient l'opportunité de quitter leur village. Ça ne fait pas une grande différence, en fait, hein, comme réalisatrice, d'avoir filmé le film en Afghanistan ou au Tadjikistan, parce que le Tadjikistan, c'est assez proche de la mentalité de l'Afghanistan, hein, à part... l'histoire avec moi, hein, et quelqu'un effectivement chaque responsable de secteur était des femmes, hein, à la direction de l'image, la direction du son, et tout d'un coup, voilà, tous ces hommes musulmans ont dû travailler comme la deuxième équipe, et ça a été quelque chose de très difficile pour eux à accepter, hein. Ils ont dû accepter de recevoir des ordres d'une femme. Évidemment, c'était la pire chose qui puisse leur arriver. Hein. Ils ont fait beaucoup de blagues, d'ailleurs, à ce sujet-là. Et effectivement, la situation de la femme, en fait, en général, hein, est difficile pour les femmes en Afghanistan ou en Tadjikistan, que vous soyez une femme à la maison ou que vous soyez une femme réalisatrice. Je pense qu'en fait, ils ont peur des femmes en général. Hein, et voilà, je ne sais pas, ils essayent de... de les oublier ou de lier. Ça, bien sûr, était difficile, hein, mais j'ai l'habitude, hein, d'être ignorée parce que je suis née et j'ai grandi dans un pays islamique, hein, où les hommes sont toujours à l'avant. Dans toutes les situations, ils ont le droit de parler de tout et les femmes doivent suivre. Hein. Je viens de ce genre de société et donc c'est effectivement pas tellement une surprise que d'une certaine manière, les professionnels qui faisaient partie de mon équipe et qui étaient des hommes ne m'écoutent pas beaucoup. Hein. J'ai pas, voilà, cette. Je réponds pas au cliché de la réalisatrice, hein, qui s'amuse à faire des blagues tout le temps, etc., et qui manipule. Je vois un monde avec d'un côté des femmes réalisatrices et des hommes réalisateurs, et j'imagine que tout ça, dans le monde des femmes, les femmes sont plus sur l'amitié, la collaboration, alors que les hommes sont plutôt sur quelque chose qui est de l'ordre de donner des ordres, hein, et à partir du moment où je voulais donc fonctionner plutôt sur la question de l'amitié, si je voulais m'éloigner de cette question de jeu de pouvoir, voilà, les hommes ne voulaient pas m'écouter parce que j'étais une femme pas très grande, en plus parce que j'avais pas non plus ce caractère de leader, de chef, hein. C'était pas très facile, mais en même temps ils pouvaient pas faire grand chose parce que la réalisatrice c'était moi.
Et le film existe désormais, le film est bien là et plus que là, puisque le film est à Cannes. Charbanu Sadat, vous êtes la première femme afghane, ici, au Festival de Cannes. Je crois même, j'ai fait un petit tour, mais je crois même que vous êtes la première femme cinéaste d'Afghanistan, que nous connaissons, en tout cas, ici, en Occident. Donc, vous avez réussi à vous imposer, malgré tout, en tant que jeune femme cinéaste, puisqu'en plus, vous êtes très jeune, vous avez 26 ans, d'être ici, à Cannes, après avoir rencontré les difficultés que vous venez de raconter. Vous donne quelle attitude, dans quel état d'esprit êtes-vous?
Well, I think I'm so happy. I'm so happy that the film could found.
Je suis si heureuse, hein, que le film ait pu trouver son chemin jusqu'ici, hein. Et beaucoup de gens donc peuvent le voir. Hein. J'avais le cœur qui explosait quand j'ai vu tant de gens qui faisaient la queue hier et qui ne pouvaient pas rentrer en fait dans le cinéma. Je me disais, mon Dieu, mais les gens sont venus voir mon film, sont venus voir ce film. Et c'était vraiment très très exaltant. C'est très important et je crois que c'est très important pour tout réalisateur, hein, de montrer son film dans un festival aussi prestigieux que Cannes. Mais pour moi, je dirais que c'est doublement exaltant et galvanisant parce que je viens d'un pays où il n'y a pas de films qui sont produits. Je suis venue de rien, en fait. Hein. Et je parle de l'Afghanistan de la manière dont j'ai choisi, d'une manière qui est complètement différente de la manière dont on parle de l'Afghanistan dans les autres films. Hein. Et évidemment, moi, je suis afghane, donc c'est pour ça que mon point de vue est très différent sur le pays. Mais je suis tellement heureuse qu'on ait pu mener à bien ce projet impossible. J'ai travaillé 8 ans sur ce projet. Ce projet a beaucoup de sens pour moi. Bien évidemment, c'est un film très personnel, mais en même temps, c'est quelque chose qui va au-delà de mon histoire personnelle. Regardez la situation aujourd'hui en Afghanistan. Pour moi, c'était comme si j'avais parlé d'Afghanistan sans ces guerres, hein, qui sont un espèce de cliché, c'était un espèce de rêve. C'était comme ignorer en fait tous ces moments sombres de mon pays et parler donc d'autres choses, parler des histoires, parler de véritables personnes qui vivent là, parler de ce qu'on peut observer dans le pays, parce qu'on peut, choisir ce qu'on regarde, en fait, hein, les choses sombres ou les choses plus lumineuses, et vous avez cette liberté-là, vous avez cette liberté de faire un voyage et je suis tellement contente qu'on ait pu faire ce film, qu'on ait réussi à le faire et je suis tellement contente aussi que beaucoup de gens aient pu le voir et qu'ils puissent ainsi voilà, voir l'Afghanistan différemment.
Merci beaucoup Shahrbanu Sadat et continuez.
Thank you so much.
Wolf and Sheep est présenté à la quinzaine des réalisateurs. Traduction Pascal Fougère, prise de son Laurent Lucas. L'Afghanistan, c'est aussi le motif du film adapté du roman de Delphine Coulin par elle et sa propre sœur Muriel. Ensemble, elles avaient déjà réalisé 17 filles, un premier long-métrage très remarqué. Dans Voir du pays, présenté dans la sélection Un certain regard, elle raconte le difficile retour en France de deux combattantes parties en Afghanistan, Aurore et Marine, âgées de 25 ans. Avec leur section, elles s'arrêtent séjourner 3 jours à Chypre parmi les vacanciers, afin de passer par un sas de décompression, un sas qui doit leur permettre d'oublier la guerre encore présente dans leurs esprits. Mais évidemment, les choses ne sont pas si simples. Comment vivre avec la violence? Comment vivre après la violence? Muriel Coulin, au micro de Raphaël Bourgois.
Peut-on vivre après la violence? On s'est rendu compte que ces garçons, dont certains jouent dans le film d'ailleurs, qu'on a rencontrés avant de faire le film, revenaient complètement fracassés des pays en conflit. Et c'est un thème qu'on voulait traiter, et particulièrement la violence des femmes. On ne pense pas, ni Delphine ni moi, que la violence soit l'apanage uniquement des hommes. Et c'était une question qui nous taraudait, parce que quand on voit des soldats dans la rue, on en voit avec en ce moment avec les événements qu'il y a eu, etc. Souvent, on voit des femmes patrouiller, et c'est vrai que c'était leur histoire, leur personnalité, à chaque fois nous interpelle. On se dit, mais comment ces filles en arrivent là? Par ailleurs, nous, on est originaire de Lorient, comme dans le film, et qui est un peu moins maintenant, mais qui a été pendant longtemps une ville militaire. Et donc, on a des amis, et des amis, eux, qui se sont engagés dans l'armée, exactement comme les deux personnages du film, pour gagner de l'argent, pour être libre et pour voir du pays, et qui sont effectivement déçus. Souvent, ça se passe pas comme elles avaient espéré, en tout cas.
Oui Delphine, on le disait, ce film est adapté d'un roman que vous aviez écrit. Donc oui, pour préparer ce roman, préparer ce film, vous vous êtes documentée.
Je préfère d'abord être avec mes personnages et réfléchir à certaines questions comme la violence et les femmes par exemple. Et ça, j'ai pas besoin d'avoir fait la guerre ni d'avoir fait le sas. Donc, parce que c'est d'abord en fait finalement un livre et un film sur l'amitié féminine. Et l'épreuve de la réalité qui s'impose parfois quand on atteint l'âge adulte ou quand on est plongé dans le réel. Donc ça, je n'ai pas besoin de me renseigner sur les expériences des autres. On en fait tous l'épreuve. Et après, en revanche, pour effectivement, parce que j'ai pas manipulé beaucoup d'armes ou que je connais pas bien du tout l'Afghanistan, c'est vrai que là, c'est toujours intéressant de faire un travail documentaire.
Vous étiez venues à la grande table toutes les deux pour un film précédent, 17 filles. Et là, on retrouve finalement un thème important dans votre travail à toutes les deux, Delphine et Muriel Coulin. C'est celui évidemment de la construction du féminin dans le monde actuel. Vous dites que c'est une histoire d'amitié entre filles. Il ne faut pas éluder la question de la violence féminine aussi. C'est aussi la question de la liberté. C'est-à-dire ces filles, ces deux héroïnes, Marine et Aurore, elle recherche avant tout la motivation de l'engagement. C'est évidemment une question économique, mais c'est aussi avoir la liberté.
Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que je crois que tous les thèmes se rejoignent exactement dans le point que vous venez de soulever. C'est-à-dire que souvent, de manière à exister dans ce monde, les femmes créent des amitiés féminines qui leur permettent de faire face aux préjugés, aux violences, aux... Et en l'occurrence, pour Marine et Aurore, nos deux personnages, un moyen d'émancipation, même s'il paraît paradoxal, c'est de s'engager dans l'armée. Pour,
c'est de faire comme les garçons, c'est
voilà.
D'engager dans l'armée.
Et oui, parce que dans plein d'endroits, mais à Lorient en particulier, d'où on vient toutes les deux, c'est une manière d'avoir un métier tout de suite, un travail sûr, de l'argent, avec la liberté qui va avec l'argent. Et ça permet de voir du pays, justement. Donc ça, normalement, c'est les garçons qui le font. Mais ces deux filles qui considèrent que l'égalité est à leur portée, elles se disent « faisons comme les garçons ».
Alors évidemment, quand on a deux personnages comme ça, le choix des actrices est, j'imagine, fondamental, très important. Et là, c'est Soko et Ariane Labed qui incarnent de façon très forte ces deux personnages. Je dis forte parce qu'il y a un engagement physique qui a été très important et qui est visible, Muriel Coulin, dans ce film.
Oui, complètement. Et là, on leur doit une fière chandelle à toutes les deux et à tout le groupe d'ailleurs, parce que c'est des acteurs non seulement qui sont doués, mais en plus, c'est des travailleurs. Et quand ils avaient la musculature pour, ils l'ont parfaite. Mais quand Ariane s'est entraînée, par exemple, pendant 6 mois pour gagner du muscle, elle a pris des protéines. Enfin, c'est un engagement aussi physique. Et Soko, elle a une manière différente de travailler, mais elle a aussi essayer de faire de l'exercice, de
travailler sur les attitudes, ouais, aussi, il y a les gestes et tout, parce que il faut qu'à chaque instant on se dise que ces filles sont militaires et ça s'invente pas. Les militaires ne se tiennent pas comme des danseuses, par exemple. Dès le casting, en fait, donc on a mélangé des acteurs professionnels avec des vrais militaires. Et au casting, c'était très frappant de voir autant les militaires rester droits comme des i pendant tout l'entretien, et y compris pendant les scènes de jeu, autant les jeunes acteurs, quand ils arrivaient, ils étaient complètement affalés, comme tout jeune homme de 25 ans qui se respecte. Et du coup, c'est vrai que ça sautait aux yeux dès le début. On s'est dit, bon, là, il y a du travail.
Et on comprend ce que vous dites depuis tout à l'heure, toutes les deux, il y a un rapport au corps, évidemment, et au corps féminin qui est très important, au corps meurtri également, celui d'une des deux personnages qui a été blessée pendant un accrochage. C'est aussi les corps qui évacuent la tension. C'est vraiment là-dessus que se joue la justesse du film, selon vous, c'est-à-dire, oui, les corps mis en image.
Oui, et c'est aussi, est-ce qu'on fait la guerre différemment si on a un corps féminin? Est-ce que dans la vie, on est différent parce qu'on a un corps féminin? Donc toute la question est là, évidemment pour nous, non. Et en même temps, c'est pas si simple.
Et c'est retrouver aussi un corps féminin, parce qu'en fait, on voit Ariane Labed, par exemple, quand elle arrive dans le film, elle est droite, elle est tendue. La première scène de bain, on voit que elle n'arrive pas à se détendre. On a beau voir son corps nu, on sent qu'il est encore empreint, elle fait craquer son corps. Ça, pour nous, c'était très important de faire craquer, de montrer les tensions qui demandent qu'à s'évacuer, mais qui n'y arrivent pas. Et il y a un vrai parcours avec son corps, c'est-à-dire que cette tension, ces craquements qu'on a au début, ils vont se libérer complètement dans la scène d'amour. Et on voit que même là, c'est pas facile, parce que sa blessure lui porte honte. Et elle regarde cet homme comme si elle découvrait un homme, entre guillemets, innocent pour la première fois. Et donc, il y a une libération du corps militaire au corps féminin libre, quoi.
Delphine et Muriel Coulin, dans ce film « Voir du pays », vous venez de le dire, on est donc dans ce moment, ce sas, ce retour d'Afghanistan, et on arrive dans cet hôtel de luxe, cet hôtel 5 étoiles, où des touristes sont en villégiature, et le temps est comme suspendu à ce moment-là. Et il y a, alors vous allez me dire si je me trompe, mais à ce moment il y a un procédé de mise en scène que j'ai trouvé en tout cas très intéressant, c'est de faire avancer le film, non pas au rythme de ce qui se passe dans l'hôtel, mais au rythme de ces séances où on raconte une embuscade qui a eu lieu, et on découvre au fur et à mesure que voilà, quelque chose s'est passé au cours de cette embuscade. Mais c'est pas le temps de l'hôtel qui révèle les choses, c'est ce moment très particulier, et c'est ces retours en Afghanistan, Delphine Coulin.
Oui, ces débriefings sont donc organisés en plus des séances d'aquagym ou des sorties en bateau pour essayer de raconter l'expérience de chacun devant le groupe et du coup de peut-être mettre à distance les événements violents, voire traumatiques, et sans pouvoir s'en libérer.
Au cours de ces séances, faut peut-être les décrire, on demande aux soldats individuellement de venir raconter cet épisode, qui est cet accrochage, cette embuscade qu'ils ont vécu, et des images virtuelles sont projetées, utilisées, sont même des lunettes de réalité virtuelle sur les yeux. Quel jeu vous avez voulu jouer, j'ai envie de dire, avec ces images?
Grâce à ces lunettes virtuelles et grâce aux nouveaux moyens vidéo, finalement, on pouvait entrer derrière les yeux des acteurs et voir ce qui s'y passait, ou en tout cas faire semblant de le faire. Et du coup, évidemment, c'est un défi cinématographique qui nous intéressait. en plus de jouer avec oui, les images virtuelles.
Mais c'est pas un processus qu'on a inventé, c'est un procédé qui existe aux États-Unis et qui commence de façon expérimentale en France pour soigner les soldats. On leur demande de formuler, mais non plus seulement par la parole, mais aussi en lien direct par les images. Et de mettre à distance l'événement par la parole et les images fait que normalement, ils devraient s'en sentir guéris. Mais par moments, ça ravive les plaies et c'est bien la difficulté de cette réalité virtuelle.
Et Marine, qui est jouée par Soko, a une phrase assez fine d'ailleurs sur ce procédé. Elle dit à un moment, ils essayent de changer les images qu'on a dans la tête, de changer ces images atroces, de les rendre propres finalement. Et donc ça pose évidemment la question du réel. Qu'est-ce qui reste de ces images, du réel
Exactement.
Qu'on a vécu?
Et ça, c'est vraiment au cœur de notre questionnement sur le cinéma en général. Qu'est-ce qui reste quand on a une histoire dans la tête, quand on a des personnages dans la tête? Comment on les transcrit? Comment on les montre? Est-ce que c'est trop propre? Est-ce qu'il faut au contraire? Enfin, c'est la représentation du réel, c'est évidemment la question centrale du cinéma. Et là, elle est presque mise en abîme, je dirais. C'est-à-dire que c'est et comment elle est représentée dans notre film et dans le film dans le film.
Oui, et puis c'est aussi qu'est-ce qui différencie le souvenir et la fiction? Pas grand-chose finalement. Enfin, c'est un peu de la même nature. Et donc là, c'est intéressant puisque chacun raconte son souvenir. Dans le même temps, des informaticiens travaillent en temps réel et reconstituent les images du récit. Et dès qu'on met en fiction, est-ce qu'on est juste par rapport au réel? C'est vrai que c'est tout notre travail.
Merci beaucoup Delphine et Muriel.
Merci.
Voir du pays, un film donc de Delphine et Muriel Coulin sera en salle le 7 septembre. Suite de cette grande table à Cannes, après le journal, en compagnie d'Olivier Assayas et de Jim Jarmusch, il est 12h30 et vous écoutez France Culture.